Il décroche une liste interminable de postes de direction au Nasdaq, le titre de meilleur négociateur du marché financier. Et on pourrait continuer longtemps comme ça. Il a même failli être élu homme de l'année, la récompense suprême. Il est possible de remplir tout un CV avec toutes les distinctions qu'il a reçues.
Il était dans un monde où personne ne le soupçonnait. Il était insoupçonnable. Il faisait partie des moteurs du système.
Bernard Madoff obtient une vraie légitimité à Wall Street et la reconnaissance de ses pairs. Pour autant, son moteur principal n'est pas l'argent.
Je ne pense pas qu'il soit cupide, parce que quand on regarde l'argent qu'il a redistribué à un certain nombre de gens avant sa chute, il a un peu tapé dans son patrimoine, et donc, non, c'est pas ce mécanisme-là. Lui, il a une espèce de détachement par rapport à l'argent, et c'est aussi un des clés de son escroquerie, c'est que pour lui, l'argent, finalement, c'est que de l'argent.
Il vivait bien, et pour revenir à l'argent, je pense qu'il était probablement arrivé au même point que la plupart des criminels en col blanc pour lesquels l'argent ne signifie plus rien. Il faisait toujours partie des personnes les mieux payées de Wall Street, il avait une vie très très confortable. Alors la question est, était-ce pour l'argent? Je ne le pense pas. Était-ce pour le prestige ou la notoriété? Il n'a jamais décroché de reconnaissance publique, si je peux le dire ainsi. Ce sont les investisseurs pour lesquels il travaillait qui l'appréciaient.
Fort de son succès, Bernard Madoff installe son empire au Lipstick Building sur 3 étages. Il aménage sa société de courtage au 18e et 19e et établit au 17e son fonds d'investissement réservé à ses activités illégales et surnommé The Cage.
La séparation entre l'étage où Madoff exerçait ses activités de courtage légales et celui où il a monté sa pyramide de Ponzi était voulue et ressemblait à la muraille de Chine. Madoff construisait concrètement sa pyramide de Ponzi sur des ordinateurs IBM périmés qui lui produisaient de faux rapports et des confirmations d'échanges factices. Les deux équipes d'employés ne communiquaient pas entre elles. C'était silence radio.
Tout au long de son ascension, Madoff croit en sa bonne étoile, d'autant que rien ne vient enrayer la spirale infernale dans laquelle il s'est laissé entraîner. Ce qu'il reconnaît à demi-mot.
Because of the success I had, and because I was sort of always going up against difficult odds, I probably didn't think long and hard enough about some of the things that I did, like, you know, getting into the problem where I started to go off the tracks, and I was able to convince myself that this was, you know, a temporary situation, and because of all my success, I sort of was going to be able to continue to do that and probably, you know, just didn't give it enough thought.
Sa réussite aveugle tout le monde, même la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Bernard Madoff obtient la confiance de ses membres et ose même devenir leur principal conseiller sur les règles de contrôle et de transparence. Il participe à toutes leurs réunions sans aucun scrupule.
Je pense qu'en général, la plupart des acteurs des marchés financiers se conforment aux règles. Ils n'essayent pas de désavantager quiconque.
Madoff était habilité pour travailler conjointement avec les gens de la SEC et de leur dire ce qu'il fallait faire, au point de leur imposer de ne pas mettre en place certaines régulations. Et je pense qu'il ne s'agit pas juste d'une erreur, mais que quelqu'un contrôlait les enquêtes en protégeant Madoff.
On croyait en lui. Et cette relation de confiance lui permettait de ne pas être surveillé comme il aurait dû l'être. Ils ont quand même enquêté une douzaine de fois sur lui.
Malgré ces enquêtes de la SEC, les investigations n'ont rien donné. Et pour cause, ils ne se sont jamais rendus au 17e étage, dans les bureaux du fonds d'investissement secret. Bernard Madoff a toujours pu compter sur la cécité des autorités, comme sur celle de ses employés qui ne semblent pas être au courant de l'escroquerie.
Il récompensait généreusement ses employés, ce qui garantissait leur silence. Il les laissait complètement dans l'ignorance.
Le paradoxe, c'est que beaucoup de gens le croyaient gentil. Il était généreux avec ses équipes. Mais de toute évidence, quelqu'un qui ressent de l'empathie pour ses semblables ne pourrait pas agir comme lui.
Son système bien rodé lui permet de vivre sans scrupules avec un niveau de vie élevé. Il possède un penthouse près de Central Park, une villa à Long Island, une autre à Palm Beach et un yacht. Il fréquente les bars d'hôtel dans le Financial District de Manhattan. Et figure sur la liste des invités de toutes les soirées et des galas de charité. Il descend aussi régulièrement à l'hôtel Breakers à Palm Beach. Il s'y comporte en prince et ne souhaite pas être dérangé par les petites gens. Mais quelle image renvoie-t-il réellement à ses victimes? Est-ce un flambeur?
Il n'a pas cette superbe qu'ont un certain nombre de gens de la finance, arrogants, avec des costumes à 10 000 dollars. Et il n'est pas du tout comme ça. Et c'est aussi une des clés de son escroquerie. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui a un côté flambeur, vous vous dites il fait ça avec mon argent. Et Bernard Madoff, beaucoup de ses victimes, trouvaient que vraiment, ça devait être un bon gestionnaire, très rigoureux, parce qu'on ne voyait pas où passait l'argent des commissions. Et donc ça, c'est très simple.
D'ailleurs, sa cantine préférée, où il se rend avec sa femme, n'est qu'un sympathique restaurant italien, le Primola. Sans prétention, ils y ont leurs habitudes. Arrivés à 18h30, ils demandent une table tranquille et commandent toujours la même chose. Pour lui, du poulet et un verre de vin rouge. Il boit très peu d'alcool. Pour elle, du poisson. Il reste moins d'une heure et laisse un pourboire de 20%. Un niveau de vie plus qu'agréable, mais aucune frénésie de dépenses.
Les Madoff étaient des gens riches. Ils possédaient plusieurs résidences, des actions, un jet, des yachts. Pourtant, en comparaison du niveau de vie des dirigeants des hedge funds à la même époque, les Madoff n'étaient pas si extraordinairement différents ou plus dépensiers. Ils menaient une vie relativement modeste selon les critères de ces hedge funds.
Alors, quelle est sa vraie nature ? Que se passe-t-il dans sa tête lorsqu'il escroque ses victimes? Au-delà de la revanche sociale, quel est son moteur?
C'est un provocateur et c'est quelqu'un qui va s'appliquer à maîtriser tous les tenants et les aboutissants de sa fiction. À telle enseigne qu'il va y croire.
À un moment, il a voulu grandir, grossir, devenir dominateur dans son secteur. Et c'est le moment où la folie de la spéculation prend le dessus.
Bernard Madoff adopte alors une attitude impériale et se considère très au-dessus de la norme, ce qu'il semble reconnaître aisément.
Just being able to sort of succeed in that, and then, you know, all of a sudden having, you know, a mindset where you feel you can almost accomplish, you know, anything. And I built my confidence up to a level where I felt that, you know, there was nothing that I couldn't attain, and it became like a challenge for me to sort of go up against the establishment and try and break into the business.
Rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Un monstre froid. Journalistes et psychologues ont envisagé toutes les hypothèses. Psychopathie, schizophrénie, sociopathie. De quelle pathologie souffre-t-il?
On peut dire par certains aspects qu'il est psychopathe. C'est un homme charmant et manipulateur qui cache ses motivations et ment de façon pathologique. Mais vous retrouvez ces traits de caractère chez les gens qui ne commettent pas des crimes et qui sont de simples hommes d'affaires efficaces. C'est la loi du genre. Il était certainement un peu obsessionnel et compulsif. Par exemple, il ne supportait pas les stores à moitié fermés dans son bureau. Il lui fallait des codes de couleurs d'une certaine manière.
Il est un peu schizophrène dans la mesure où il a le sentiment d'être pris au piège et de ne pas. Et c'est ce qui s'est passé à un moment. Son escroquerie n'a plus fonctionné et donc il est allé encore plus loin et il en a fait l'escroquerie qu'on connaît, hein, planétaire, et en collectant de plus en plus de fonds pour pouvoir servir les intérêts et que personne ne découvre son escroquerie.
Un bureau en désordre, des rayures, des stores baissés peuvent agacer Bernard Madoff. S'il se présente comme le gentil et chaleureux oncle Bernie, il se révèle en fait distant, maniaque et calculateur.
J'ai rencontré Madoff à deux reprises. Il était silencieux, ne semblait pas vouloir beaucoup parler. Il n'a pas été très chaleureux quand je l'ai rencontré. Pas causant, comme on dit.
Ce n'est pas le genre de type à vous donner une tape dans le dos et vous proposer d'aller boire un verre. Une fois, quelqu'un m'a même rapporté qu'il n'aimait pas venir au Palm Beach Club car tout le monde voulait lui parler de son fond, de ce qu'il ne souhaitait pas. Il a toujours affirmé qu'il venait juste là pour jouer au golf.
Le vernis d'homme respectable et respecté commence pourtant à craqueler quand l'analyste financier Harry Markopoulos envoie successivement 4 rapports à la SEC, le gendarme américain de la bourse. Entre 1999 et 2008, il tente de convaincre les autorités de régulation que le fonds Madoff dissimule en fait la plus grande escroquerie du monde. En vain, ces rapports n'ont jamais été pris en compte.
Malheureusement, ils n'ont pas répondu à mes rapports de 2001, 2005, 2007 et 2008. Voilà où on en est aujourd'hui. Une fraude qui aurait pu s'arrêter à 7 milliards de dollars en 2000 et qui se porte aujourd'hui à 50 milliards de dollars.
Certains clients commencent également à émettre des doutes.
Mon client a senti que quelque chose d'illégal se passait. Ce particulier était contrarié car les rendements de Madoff ont baissé jusqu'à 8% ou 10%. J'ai contacté Madoff pour lui demander comment fonctionnait sa société. Il a répondu « Je ne vous répondrai pas à cela, c'est ma propriété ». Je m'attendais à cette réponse. Et je lui ai demandé alors ce que je pouvais dire à mon client pour le rassurer. Madoff m'a répondu qu'il pouvait faire gagner de l'argent quand le marché était en hausse ou en baisse, mais jamais quand il était stable. I can't make money when the market
stays flat. Bernard Madoff a toujours esquivé les questions de ses clients. Il répondait de manière évasive. Jusqu'à l'été 2008, où les demandes se font de plus en plus pressantes.
Il a des alertes très sérieuses. Il sait que il ne va pas pouvoir payer les intérêts, il tape un peu dans sa réserve personnelle et il est un petit peu pris à la gorge. Il le dit d'ailleurs à quelques-uns de ses clients en disant « la période est compliquée », il essaye de les convaincre de rester dans son fonds, c'est la première fois. À partir de ce moment-là, pendant cet été, il va se refermer de plus en plus sur lui et puis très vite, il comprend qu'il ne tiendra plus, que c'est la fin.
Après la chute de la banque Lehman Brothers, la crise s'accentue et les clients de Madoff demandent à récupérer leurs capitaux. Bernard Madoff doit réunir 7 milliards de dollars. Il ne peut évidemment pas les sortir.
Quand la crise a éclaté, les établissements financiers, les clients des banques, les gérants qui avaient placé de l'argent sur les marchés financiers se sont retrouvés confrontés à des pertes importantes et ont voulu les compenser en vendant une partie de leurs actifs qu'ils possédaient chez Madoff. Et c'est à ce moment-là, devant les proportions qu'ont pris ces demandes de rachat, comme on dit, que Madoff s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas les satisfaire. Cet argent n'existait pas. Madoff s'est dit à ce moment-là que c'était fini, enfin, qu'il était fichu, que l'escroquerie allait exploser.
Le 10 décembre 2008, acculé, il convoque ses deux fils qui travaillent avec lui pour tout leur avouer.
Il savait que sa pyramide de Ponzi allait bientôt s'effondrer. Le FBI allait certainement venir frapper à la porte de son penthouse. Je pense qu'il a tout orchestré intelligemment. Il a d'abord tout dit à son frère Peter, puis à ses enfants. C'est eux qui ont dénoncé leur père à la police.
Laisser ses enfants le dénoncer constitue une manière pour Bernard Madoff de les protéger en levant tout soupçon sur eux. C'est aussi une façon de mettre fin à une escroquerie qui l'épuise.
Il leur dit notamment, il faut que ça cesse, tout ça ne peut pas continuer parce qu'il est pris à la gorge, hein. Il n'a plus les moyens d'honorer une échéance.
Madoff a donné le sentiment que cet événement pour lui était quelque chose de fan salvateur, une sorte de grand soulagement, comme s'il avait conscience que de toute façon ça ne pouvait pas durer toujours et qu'un jour ou l'autre ça éclaterait et que d'une certaine façon, le plus doué était le mieux.
Une fois l'escroquerie révélée à ses enfants, il sait qu'il n'a plus que quelques heures devant lui. Étonnamment, il préfère les passer en compagnie de ses salariés pour la fête de Noël de sa société.
Il sait très bien que l'escroquerie va exploser le lendemain ou surlendemain dans la presse, que la police va arriver. Mais il a besoin aussi de passer un bon moment. C'est un tricheur, c'est un joueur. Depuis le début, c'est un joueur. Donc il joue aussi dans cette dernière réunion. Quand vous êtes le seul que à savoir que le lendemain tout va s'arrêter et que vous voyez les gens boire une coupe de champagne, profiter, jouer avec les enfants puisque c'est le Noël de son entreprise. Il sait que tout ça, le théâtre va s'arrêter, mais il en jouit.
Même dans les derniers moments de sa liberté, Bernard Madoff veut tout contrôler et conserver sa respectabilité. Jusqu'à la fin, il demeure dans le cercle très fermé des meilleurs financiers des États-Unis, au point d'être pressenti comme futur président de la SEC, l'autorité de régulation de la bourse américaine. Arrêté le 11 décembre au matin, il ressort sous une caution de 10 millions de dollars, assortie d'une assignation à résidence dans son penthouse. C'est là que Madoff reçoit des appels incessants avec une multitude de journalistes en bas de chez lui. Il est harcelé, encerclé. Il se sent dépassé et tente de se suicider avec des médicaments le jour de Noël.
Je pense que si Madoff a raté son suicide, c'est qu'il n'a pas ce sentiment de culpabilité. Si vous vous suicidez, c'est parce que vous avez un sentiment de culpabilité vis-à-vis de vos victimes. Mais lui, il ne l'a pas.
Cette tentative ratée apparaît aux yeux de tous comme une énième parade.
En fait, il a toujours fait preuve de l'optimisme indéfectible de ceux qui viennent de loin et qui arrivent toujours à se sortir d'affaire.
En juin 2009, le procès tant attendu s'ouvre. Bernard Madoff décide de plaider coupable afin d'atténuer sa peine. Dans la législation américaine, cela signifie qu'il n'y a ni débat ni enquête. Il déclare tout au long du procès qu'il est le seul responsable et nie toute complicité.
Je pense que c'est une défense intelligente et que ça met un terme immédiat, instantané, à toute velléité d'enquête. Et qu'à partir de ce constat factuel, tous les scénarios sont possibles. Est-ce qu'il a protégé des gens? Est-ce qu'il s'est protégé d'une certaine manière? J'ai de doutes que Madoff ait pu légitimement fonctionner tout seul. Ça me semble beaucoup, beaucoup pour un seul homme.
S'adresse-t-il à ses victimes? Il ne semble éprouver aucune compassion.
Est-ce qu'il a émis un quelconque remords? Non, au contraire. Il a été combatif et il a dit d'une certaine manière c'était bien fait pour mes victimes.
Pas dire qu'il fond en larmes ou qu'il s'excuse. Il a un côté très... voilà, c'est parti du jeu.
Madoff lui-même a déclaré qu'il avait essayé de s'excuser auprès de ses victimes. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a dit qu'il se souvenait d'avoir vu les pancartes « Bernie saute » et que cela l'a profondément blessé. Mais vous savez, Madoff a un comportement ambivalent par rapport aux victimes, au point d'être à la fois désolé et en colère, comme un sentiment mélangé.
Madoff n'éprouve non seulement aucun sentiment de culpabilité, mais il ne mesure toujours pas l'ampleur des dégâts qu'il a pu commettre. De sa prison, il s'exprime à ce sujet.
I wasn't frightened enough to say to myself, I can't do this, I can't take the risk, or I shouldn't be taking the risk, because clearly I didn't give enough thought to that. When I look back, I couldn't have said no. You know, it wasn't like I was being blackmailed, you know, into doing something, or I was afraid, even afraid of sort of getting caught doing it. I sort of rationalized that what I was doing was okay, you know, it wasn't going to hurt anybody, it was a temporary thing, and because of the success that I've had and the money I made for people, I sort of felt it would just sort of be a, you know, a temporary situation and acceptable.
Condamné à 150 années de prison, il est transféré dans une centrale de Caroline du Nord. Il y retrouve rapidement un semblant de respectabilité aux yeux de ses co-détenus, mais considère que sa peine est injuste.
En prison, on le respecte, car il a été l'un des plus grands criminels de la finance de l'histoire. C'est aussi quelqu'un de brillant, auprès de qui on peut obtenir des conseils financiers. D'ailleurs, il est en fait l'un de ceux qui gère la cantine. En prison, c'est la personne qui a le plus de jugeotes en matière de business.
Il n'a pas très envie de parler de sa situation actuelle en prison. Tout compte fait, il n'y a pas vécu de période difficile. C'est une prison fédérale de sécurité moyenne. Et il a été plutôt bien accueilli par les autres détenus. C'est un peu une célébrité avec toute l'attention que les médias lui ont accordée. Il m'a quand même exprimé sa rage à propos de ce qu'il appelle le deux poids, deux mesures. Et c'est un point qui est très intéressant. La banque multinationale HSBC s'est acquittée d'une amende de 1,5 milliard de dollars en raison de son implication dans le financement du terrorisme et du blanchiment de l'argent des cartels. Est-ce qu'un seul responsable d'HSBC est en prison? Non.
Il ne sortira jamais de prison. Plutôt que de subir, Bernard Madoff préfère s'adonner à son jeu favori, gérer l'argent des autres. Il s'est dernièrement accaparé le marché du chocolat chaud en rachetant à l'intendant de la prison tous les paquets de la marque Swiss Miss et en les revendant plus cher dans la cour de la centrale.
Ah ben c'est une pathologie, à mon avis, c'est une névrose obsessionnelle compulsive. C'est un besoin évident de s'affirmer, d'exister à l'égard des autres et de se rendre indispensable.
Bien souvent, il a un besoin intime de tricher. Il a un besoin intime de réussir sur la base d'une personnalité qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que l'imposteur, c'est d'abord celui qui, en séduisant les autres, se séduit lui-même.
Certains s'interrogent tout de même sur cette capacité hors du commun à s'attirer la sympathie des autres détenus. Seulement 10 milliards sur les 50 détournés ont refait surface et il ne faudrait surtout pas que les bénéficiaires de l'escroquerie soient identifiés.
Dans la prison où il est entouré avec des mafieux de New York qui sont eux-mêmes en prison et qui sont là sans doute pour garantir son silence. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais à plusieurs reprises, devant les magistrats, il a énergiquement refusé de remonter au-delà de lui, c'est-à-dire il a dit « mais non, mais je prends tout ».